Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût. Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'art consiste à exagérer des choses fausses afin d'en dissimuler de vraies. C'est Edgar Allan Poe qui écrit cela. Et reconnaissez que l'auteur de la lettre volée s'y connaissait en matière de dissimulation, laissant ce qu'il avait à cacher là, juste là, au beau milieu des choses. Claude Monet avait lu toutes les nouvelles extraordinaires de Poe, et notamment celle-ci, nommée « Silence », où l'on voit des nénuphars tendre vers le ciel leurs longs coups de spectre, et ils soupirent l'un vers l'autre dans la solennité de leur désolation. Dans son dernier livre formidable, Le syndrome de l'orangerie, Grégoire Bouillet mène l'enquête. Il a vu les nymphéas de Claude Monet, il a lu les nouvelles d'Edgar Allan Poe, et il a flairé quelque chose de pas net. Oui, décidément, il y a quelque chose de pourri dans le royaume des nymphéas, où tant de visiteurs, à Giverny comme à l'Orangerie, viennent pourtant se délecter de la vibration d'une beauté si calme, apparemment, en un monde flottant, où le ciel plonge dans des eaux lentes, indécises, illimitées. Pour que l'œil dise ce qu'il voit réellement, faut-il d'abord congédier ces grands mots, impressionnisme, Monet, chef-d'œuvre? Tout dans ce livre parle de la puissance même d'élucidation, indissociable de son ressort intime, comme si ce qui vibrait là, sur la toile, était d'abord la rencontre entre deux inconscients, celui du regardeur et celui de l'œuvre. On en parle avec l'écrivain Grégoire Bouillet et l'historienne de l'art Laurence Bertrand d'Orléac, rejoint par notre sociétaire du jour, Pierre Singer-Avelou. Les nymphéas? Allons-y voir.
Jusqu'à sa mort en 1926, à l'âge de 86 ans, Monet consacra toutes ses forces à cette œuvre ambitieuse qui fut à ce point incomprise que bien des critiques ont attribué son étrangeté au fait que Monet souffrait de cataracte. En réalité, cette dernière façon de peindre vient de ce que l'observateur, à force d'acharnement, fait place au visionnaire. L'œil plonge dans les choses, abolit la limite des objets, efface l'horizon. Monet ne regarde plus la nature, il s'identifie à elle. Il ne représente plus le petit bassin de nénuphar agencé et entretenu par lui-même. Il laisse les rythmes de l'eau et de l'air passer à travers sa main jusqu'à les dilater à l'infini.
Grégoire Bouillet, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes écrivain, ce qui veut dire pour vous que vous êtes pris dans une vaste entreprise littéraire d'élucidation de la réalité. Dans votre premier livre, qui est paru chez Alia en 2002, vous dites de vous, Bouillet, pour sa part, désigne un petit bois de bouleau. Je sais donc de quel bois je suis fait, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ce bois, il a un peu cassé, non? À ce moment-là, du syndrome de l'orangerie.
En tous les cas, il a frémi. Ça, c'est comme le roseau, en fait. Le bouleau a une souplesse. Ça monte très haut et puis c'est très souple comme arbre. Oui, il a frémi absolument lorsque je suis allé voir les nymphéades à l'Orangerie, au musée de l'Orangerie.
On va en parler. Laurence Bertrand d'Orléac, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art à Sciences Po, vous présidez la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Vous avez publié de nombreux et beaux livres sur la guerre, sur la nature morte, et peut-être que ce que vous cherchez, rétive que vous êtes à la véhémence, c'est une forme de puissance qui a à voir avec ce que vous appelez dans votre dernier livre, Le Lion de Rosa Bonheur, la folie douce. Et dans le livre qui nous réunit, celui de Grégoire Bouillet, il y a quand même une folie douce.
J'ai adoré ce livre. C'est la première fois que j'ai l'impression très étrange d'avoir correspondu avec son auteur que je ne connaissais pas et que je n'ai pas encore lu, enfin, avant. Et j'avais l'impression qu'il disait les choses que j'avais eu envie de dire et que je n'avais pas complètement réussi à dire. Lui, par le roman, et moi, en fait, par l'histoire de l'art.
C'était... Oui, parce que vous avez écrit en 2012, hein, c'est ça, Contre-déclin,
oui.
Monet et Spengler dans les jardins de l'histoire. Alors, on peut dire que vous ne vous connaissiez pas, mais vos livres se connaissaient, en fait.
Alors, c'est très drôle parce que j'ai eu exactement le même sentiment en lisant votre livre que j'ai trouvé vraiment remarquable et que je regrettais de ne pas avoir lu avant d'écrire Le Syndrome, parce qu'il y a énormément de pistes, on va y revenir, mais quand vous parlez de l'aquarium des frères Guillaume, ça m'a enthousiasmé. Quand vous parlez des lettres de Fernand Léger, que j'ignorais, les lettres de guerre, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Voilà, donc il y a énormément de choses dans votre livre que j'ai adoré.
Alors là, ce qu'il y a de commun entre vos deux livres, c'est que ça commence par une rencontre qui ne se passe pas vraiment comme prévu. Vous allez, Grégoire Bouillet, ou en tout cas votre narrateur, le détective...
À ce moment-là, c'est Grégoire Bouillet.
À ce moment-là, c'est vous.
Oui.
Dans un endroit où normalement les gens veulent trouver du calme, du repos, l'orangerie, les nymphéas, et là, ça se passe très mal.
Très mal. En tout cas, il se passe quelque chose de bizarre, qui est que effectivement, allant voir les nymphéas avec ma fille, qui était de passage à Paris, et parce que je n'avais jamais vu les nymphéas en bon parisien, je vais pas à l'Arc de Triomphe, je vais pas voir la Tour Eiffel, enfin voilà. Mais ma fille était de passage à Paris, on va voir les nymphéas à l'Orangerie. Et c'est vrai que je m'attendais à voir ce que tout le monde s'attend à voir, hein, c'est-à-dire que tout le monde est clafide de plein de mots, impressionnisme, chef-d'œuvre, comme vous avez dit tout à l'heure, ode à la nature, paix intérieure, méditation, pacifisme, enfin, on y reviendra aussi avec votre livre. Et moi, le sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de malaise, d'angoisse. J'ai trouvé que il y avait quelque chose de morbide, de délétère, voilà. Et donc, il y a plein de mots qui sont arrivés avec la sensation que j'avais, qui était en totale contradiction avec ce à quoi je m'attendais. Donc là, c'était Grégoire Bouillet qui a eu ce sentiment-là et m'a traversé à ce moment-là le souvenir de Blow Up, le film d'Antonioni, où un photographe prend en photo dans un parc et quand il développe les photos, il repère quelque chose et plus il agrandit les photos et à la fin, il va découvrir qu'il y a un cadavre caché dans les buissons. Et le mot cadavre m'est venu en association avec le film d'Antonioni et je me suis dit, il y a un cadavre dans les nymphéas, un ou plusieurs.
C'est ça.
Et là, Grégoire Bouillet a fait place à l'inspecteur Bimor, que j'avais déjà utilisé dans mon précédent livre sur l'enquête sur un fait divers. Alors, il y a deux enquêtes. Il y a une enquête sur est-ce que c'est moi qui suis taré pour éprouver ce genre de sensation devant une œuvre, qui est encensée et qui est plutôt du côté du beau, enfin, du beau admirable. Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans les nymphéas qui a déclenché mon angoisse et donc l'enquête, c'est à la fois sur mon angoisse et sur les nymphéas.
Et vous, Laurence Bertrand d'Orléac, c'est un peu la même chose, ou en tout cas c'est complémentaire. Vous arrivez aux nymphéas en colère, c'est-à-dire que vous voulez écrire contre le déclin, contre Oswald Spengler, et vous croyez trouver du calme, du repos dans cette belle salle en ellipse incurvée des nymphéas. Et il y a quelque chose là encore qui vous arrête et qui va vous relancer d'ailleurs, puisque ce livre Contre-déclin, comme son nom l'indique, est une sorte de contre-champ du malheur.
En fait, j'étais en train de préparer, peut-être pour un livre, mais dans la foulée d'un colloque sur la décadence à Rome, à l'école française de Rome, donc où nous avions tous planché sur le thème de la décadence. Moi, dans les années 1930 en France, je lisais le déclin de l'Occident de Spengler et pour comprendre sur la longue durée de l'histoire ce qu'avait été cette réflexion sur l'art et le déclin. À vrai dire, j'étais en colère surtout contre le discours décliniste que j'entendais tous les matins et que je lisais dans les médias déjà à l'époque. Et j'ai été à l'Orangerie des Tuileries pour me délasser, en fait. Et ça a eu un effet comme toujours sur moi, justement, à la fois apaisant et rêveur, disons. J'ai pu vraiment m'abstraire de ce décadentisme de Spengler qui à la fois me passionnait mais m'énervait considérablement. Et en sortant, vraiment par hasard, j'ai lu les textes dans les vitrines et je me suis rendu compte que Monet avait commencé ses grandes œuvres, ses dernières œuvres en 1914, exactement au moment où Spengler commence à écrire Le déclin de l'Occident. Et là, en fait, là, je me suis dit, il faut que je raconte cette histoire-là.
Qui est aussi une enquête. Et d'ailleurs, au fond, vous voyez que notre émission, là, elle déroge un peu à sa règle, à sa jeune règle, qui consiste d'abord à décrire, et puis ensuite on commente. Mais là, qu'est-ce qu'il y a à décrire? C'est pas un tableau, c'est des centaines, 300 presque tableaux, une série des nymphéas. Donc ça commence à la fin des années 1890, ça se termine en 1926. Et là, on a parler des huit grands panneaux de ceux qui sont donnés à la France le 12 novembre 1918, comme, dites-vous, Grégoire Bouillet, des décorations. Et là, ça y est, il y a un mot qui fait mouche, il y a un mot qui met le feu aux poudres. Pourquoi il dit décoration?
Oui, alors d'abord, il faut peut-être, on peut peut-être juste décrire le fait qu'aller voir les nymphéas à l'orangerie, c'est se livrer à une expérience de vision, parce que en fait, on ne peut jamais embrasser l'œuvre en son entier.
On est environné,
c'est-à-dire qu'il y a toujours, on regarde un panneau, il y en a toujours un dans son dos. Et c'est quoi une œuvre qui organise, qui déjoue complètement le fait que généralement on se place devant un tableau, on le regarde et puis on l'étudie et tout ça. Mais là, on est forcé d'être en mouvement. Et c'est pour ça que moi je l'ai associé. Alors vous l'associez, j'ai adoré ça sur l'aquarium, mais moi je l'ai associé au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a 91 mètres et on est forcé de marcher, on se rapproche, on s'éloigne. Donc c'est une expérience. C'est une installation, en fait. C'est peut-être la première installation d'art contemporain. Et c'est en 1914. Et alors, quasiment le jour de la déclaration de la guerre, il envoie une lettre à son ami Marc Edler, je crois que c'est Marc Edler, j'ai un doute, non, Geoffroy, pour lui dire qu'il entame un grand travail pour une grande guerre, donc c'est les grands panneaux de l'orangerie, et il va les terminer, il va les donner à la France le lendemain par une lettre à Clémenceau. Voilà. Et donc, bien évidemment, il peint pendant toute la période de la guerre.
Les lettres à Clémenceau, elles sont décrites et citées dans votre livre Contre-déclin, Laurence Bertrand d'Orléac. C'est extraordinaire. Clémenceau l'appelle mon vieux maboule, mon vieux cœur.
Vieil hérisson.
Ouais. Et donc, c'est quand même une scène de guerre.
Alors, oui, d'entrée de jeu, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose dans l'œuvre qui n'est pas ce que je croyais. Mais évidemment, c'est le choc entre cette lecture de Spengler qui, lui, est évidemment dans ce premier tome du déclin de l'Occident et habité par la guerre, et le fait de voir cette œuvre dans ce contexte-là, au fond, et puis peut-être le fait que, au fond, la guerre m'obsède, il faut quand même le dire. En fait, je vais en faire évidemment, j'en ai une vision complètement différente ce jour-là, et c'est ça que je vais approfondir finalement.
Et justement, pour avancer dans l'élucidation de ce que vous appelez la réalité, c'est-à-dire de ce rapport entre l'inconscient du regardeur et, disons...
L'inconscient de l'œuvre.
De l'œuvre, de son imaginaire. Et vous dites bien que l'imaginaire, pour vous, c'est à la fois la somme des imaginations de chacun, plus augmentée de...
La sienne propre.
De la sienne propre.
Oui, absolument.
Donc, il faut faire confiance à son impression, voilà, au départ, c'est propre d'ailleurs de ses œuvres. Vous avez voulu, Laurence Bertrand d'Orléac, écouter une autrice, Marianne Alphand. Écoutons-la.
Monet fait construire un atelier et il commence ses grandes décorations. Vous voyez comme Monet est petit. Il y avait des marchands comme Gimpel et Bernheim qui venaient chez lui à Giverny et qui disaient, c'est extraordinaire, c'est comme un malaise, on est à l'intérieur de quelque chose d'aquatique. Alors voilà, bon, les grands nymphéas, ils sont irreprésentables, il faut y aller. Il faut y aller, il faut aller à l'orangerie et il faut voir à quel point cet état que Monet recherchait, cette espèce d'exaltation, cette intensité de l'expérience extérieure, il a pu la recréer en entrant dans quelque chose qui est qui est rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien. C'est de l'eau, des reflets, de la couleur. Et il est à la fois dans le paysage et sorti du paysage.
Si c'est rien, si c'est de l'eau et de la couleur, qu'est-ce qui flotte? Qu'est-ce qui est entre deux eaux? C'est là, au fond, le cœur de ce que vous appelez, Grégoire Bouillet, la scène du crime.
Oui, alors, moi je pense qu'il y a un cadavre, des cadavres, hein, enfin, je pense qu'il y a les 9 millions de morts de la guerre qui sont là, il y a une porosité de Monet, d'autant plus que son fils est sur le front, hein, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que pendant 4 années, il peint ses nymphéas, il les reprend, il n'arrête pas, et à un moment donné, j'ai même le sentiment qu'il y a des panneaux, on pourrait imaginer que là, c'est les marais de Saint-Gond. Là, c'est la bataille sur la Marne, ou c'est la Somme. Il y en a un, c'est reflet au soleil couchant, je veux dire, qui est incroyablement tumultueux. Et on a l'impression que c'est une scène de bataille. Et tous les grands panneaux racontent la guerre, finalement, sans rien en montrer.
C'est pour ça que ce sont des décorations.
Ah, voilà. Alors, il appelle ça pendant 4 années, hein, publiquement, il dit, j'aime mes grandes décorations. Et tout le monde reprend ce terme-là. Et c'est très rigolo, parce que moi j'entends le mot décoration, et je dis, mais en temps de guerre, une décoration, ben c'est une médaille. Et c'est drôle, comme en fait on fait pas le lien, les mots sont tellement forts, on a tellement intériorisé chef-d'œuvre, impressionnisme, Monet, et grande décoration, peinture, qu'on oublie qu'il y a un sens militaire aussi, et à la fin, quand Monet donne ses tableaux à la France, en fait c'est lui qui la décore. Et c'est incroyable comme geste. Il inverse tout, quoi. Je veux dire, c'est lui qui décore la France, mais voilà, c'est un acte de foi, comme vous dites aussi dans votre livre, c'est un acte de foi totalement patriotique. Il est en phase directe avec la guerre, alors que quand on lit les cartels, et quand on présente ça comme une œuvre de paix.
Oui, alors d'accord, ce sont des tombeaux, mais on lit page 61 de votre livre, Grégoire Bouillet, 9 millions de morts plus 1. Et ça, c'est assez bouleversant, Laurence Bertrand d'Erlerac. Parce que là, on est vraiment au cœur du deuil.
Oui, alors... Bon, parce que là, Grégoire, pardon, mais vous en oubliez beaucoup des morts, parce que dans votre livre, il y a beaucoup plus de morts que ça. En fait, il y a son fils, Jean, qui vient de mourir.
Il est mort quelques mois avant la guerre.
Oui. Dans son atelier.
Dans son atelier.
Dans son atelier.
Alors
même.
Pas le grand. Hein.
Le petit.
Le petit.
Le petit, donc, il y a également sa femme, sa première femme, sa deuxième femme. Donc, en fait...
Ses amis aussi.
Ses amis, j'aurais pu en fait penser au cimetière marin. En fait, c'est un cimetière marin. Ça m'agace de ne pas y avoir pensé plus tôt. De la même manière que décoration, bien sûr. Mais pourquoi j'ai oublié en fait de... Évidemment, ça met sur la piste. Là, on voit l'inspecteur Grégoire en action.
Là, c'est Bimor. C'est plutôt le narrateur.
Oui. Et du coup, juste une chose, c'est qu'à un moment donné, je crois que vous dites, il y a des paysages camillesques. À propos de Camille, son épouse, donc, il va peindre magnifiquement. Il y a tout un passage très beau là-dessus. Mais en fait, je trouve qu'on pourrait parler de paysages jeannesques, de paysages aliciens, de paysages soldatesques, de paysages criminalesques, pour la fin, etc., etc. Alors ça, c'est vraiment très, très beau, parce qu'au fond, c'est un livre, le vôtre, qui ne veut pas faire le deuil du deuil, si je puis dire. On dit faire son deuil. En fait, vous ne voulez pas faire le deuil. Et je crois que ça, c'est vraiment c'est très, très étonnant.
Ouais, alors, je pense que... Il y a une phrase à la fin du livre, d'ailleurs, pour dire « J'aimerais qu'on en finisse avec cette expression, faire son deuil. » Parce que quand on voit le travail de deuil... qui ne se termine jamais, qui est chez Monet. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand même, la mort de sa femme est une bascule picturale, affective, bien évidemment, mais, et puis existentielle aussi, dans la vie de Monet, mais vraiment, elle est d'abord picturale. C'est-à-dire qu'il change toute sa peinture. C'est là où il casse l'horizon quand il peint Camille sur son lit de mort, qui est une toile absolument incroyable qu'on voit à Orsay. Et quand on voit le chemin que prend le souvenir de Camille, la douleur de sa perte, les chagrins qu'il associe à la mort alors de son premier fils, les morts de la guerre, voilà, moins Alice, moi je crois moins Alice, plus Camille en tous les cas, je pense qu'elle est très très présente parce que picturalement c'est là où il a fait une bascule, c'est là où il casse l'horizon, c'est où il supprime l'horizon. D'un seul coup, dans Camille sur son lit de mort, et quand on regarde les panneaux de l'Orangie, l'horizon a disparu. Ce sont les nymphéas qui sont l'horizon, comme vous le dites très très bien d'ailleurs, c'est les nymphéas qui sont l'horizon. Parce qu'à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on perd pied quand on regarde les nymphéas, c'est qu'on ne sait pas où se situer parce que l'horizon a disparu. Et la première fois où il supprime l'horizon d'un tableau, c'est en peignant Camille sur son lit de mort.
Alors, pour Camille, je dirais aussi que c'est un moment de grande douleur, de double douleur. La douleur d'avoir perdu Camille et la douleur, en fait, de ne pas pouvoir faire autre chose que de la peindre morte. Et ça, c'est très terrible pour lui parce que il écrit « Plaignez-moi ». Plaignez-moi. Il est incapable, finalement, de ne pas transformer quelque chose qu'il sent comme un moment, disons, qu'il faudrait vivre pour vivre, et qu'au fond, il est obligé de peindre.
Oui. Alors, même si moi, j'ai quelques réserves, parce qu'on sait, par Clémenceau, c'est Clémenceau qui a raconté la scène où Monet lui aurait raconté comment il veillait Camille qui venait juste de mourir dans leur maison de Vétheuil et comment d'un seul coup il a commencé à avoir des tons et puis de la peinture, il a pris un chevalet, il a peint. Et moi j'ai quelques réserves quand même sur en fait je pense qu'il y a plus de Clémenceau dans cette scène, dans ce qu'il raconte, que de Monet.
Alors ce qui est drôle dans ce débat, c'est que Grégoire Bouillet évidemment est écrivain et d'une certaine manière le sujet de votre livre, c'est le livre lui-même, c'est sa puissance d'élucidation, mais quand même malgré tout vous pensez et on est d'accord à la fin que vous dites la réalité, pas le réel, la réalité. C'est-à-dire, au fond, l'imagination de la réalité. C'est-à-dire, et là, le dialogue est possible, Laurence Bertrand d'Orléac, avec l'histoire de l'art, pleinement. C'est-à-dire que l'enquête, c'est vraiment une enquête.
Ah, je suis entièrement d'accord. Je ne fais pas partie de ces historiennes positivistes qui oseraient dire que la vérité n'arrive pas par le roman. La vérité arrive surtout par le roman. On revient à ce que disait Degas, faites faux et ajoutez un accent de nature. Je pense que c'est ce que fait Grégoire, finalement.
Alors, ce que fait Grégoire, c'est effectivement aller à cette réalité ou à son imagination par les mots, tout en s'en méfiant. Et vous avez voulu qu'on écoute, et c'est très beau, c'est vrai, un extrait d'un film, Les photos d'Alix, de Jean Eustache, où il commente effectivement les photographies qu'Alix Cléo Roubaud, l'ami de Jean Eustache, et au fond, au fur et à mesure qu'avance le film, eh bien, les mots se dérobe, écoutez.
Ça, c'est en Corse. C'était un pseudo-coucher de soleil. Mais le coucher de soleil n'est pas réel. Le soleil ne sous-couchait absolument pas. Le soleil est là, comme tu le vois, d'après les rayons. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai, par artifice, je l'ai couché, si je puis dire, puisque j'ai fait un coucher de soleil en couleur. Ça m'amusait de fausser, de déplacer le soleil. En indiquant par les couleurs qu'il était couché, enfin, alors qu'on voit très bien qu'il est là.
Qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est une. Ça fait partie d'une série, ça s'appelle La Dernière Chambre. C'est le dernier lit que j'ai eu dans la chambre de mes parents. C'était le dernier lit donc, que j'avais chez mes parents. C'était la dernière chambre tout court également, la dernière chambre noire aussi. Si tu regardes bien, la lumière sur le corps n'est pas celle qui vient de la source lumineuse que tu vois là.
Et ça, mais cette lumière est étrange.
C'est
une lumière
pas tellement
artificielle ou...
Non, c'est la lampe qui est là. C'est une lampe sur une table de chevet, c'est un peu flou. Bon, c'est une photographie suicidaire, en quelque sorte. Enfin, c'était un corps qui est, je suppose, le mien. Mais glorieux, mort. Enfin, mort mais glorieux. C'est une photographie assez morbide également. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est délibérément morbide. En quoi est-ce truqué, puisqu'il s'agit de la mort et que toute la photographie lutte contre la mort, contre le passage du temps, contre le. Les ruptures, contre des choses qu'on ne verra plus. Contre... Mais enfin, oui, cela n'a pas beaucoup d'intérêt. Comme la photo elle-même.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Grégoire Bouillet, le syndrome de l'orangerie qui est paru chez Flammarion. Justement, ça commence comme ça, comme une exergue. Voilà. Des photos d'Alix.
Absolument. Alors, moi, je tenais à ce que la première exergue du livre, ce soit un extrait de... Donc, l'exergue, c'est « Et là, que vois-tu ?» Et c'est tiré, effectivement, de ce court-métrage de Jean Eustache, qui est pour moi un choc intellectuel et esthétique. Alors là, à la radio, il manque les images.
Bien sûr.
Parce que le dispositif est extrêmement simple. Donc, Alix Roubaud ouvre un album photo avec un jeune homme qui s'avère être le fils de Jean Eustache, mais c'est... On s'en fiche. Et il commence à regarder les photos et elle commente les photos qu'elle a prises. Et au début, elle dit, alors je dis n'importe quoi parce que j'ai pas en tête, mais là, alors tu vois, c'est à Biarritz, là on reconnaît le rocher, l'artillerie et tout ça. Et effectivement, on voit une photo de Biarritz et tout ça. Et plus elle tourne les pages, et plus le commentaire s'éloigne de ce que l'on voit. Et ça crée un vertige. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qu'elle raconte, et là dans l'extrait qu'on a vu, si on regarde la photo, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de dire. Et tout se passe normalement. C'est-à-dire que elle crée un discours sur des images qui ne coïncident plus. Et cette dissociation des mots et du visuel crée un trouble totalement vertigineux, parce qu'à la fin, on se demande, mais qui dit la vérité? Est-ce que c'est le langage ou est-ce que c'est l'essence, notamment l'œil?
Qu'est-ce qu'on dit de ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on voit de ce qu'on dit? C'est la question, au fond, qui est posée par Grégoire Bouillet, et c'est là où il attache véritablement sa prose au savoir de l'histoire de l'art. Moins, d'une certaine manière, pour ce qui est révélé, même s'il y a des révélations qu'on ne dévoilera pas, que dans la forme même de l'enquête, Laurence Bertrand d'Orléac. C'est-à-dire justement ce rapport entre ces mots dont on doit se débarrasser pour voir vraiment et pour avoir des mots à soi. C'est très beau ça aussi.
Il est certain qu'on est bien embarrassé devant toute image, devant toute œuvre. Ça rend muet. C'est dit très difficile de trouver les mots. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'histoire de l'art n'a presque aucun succès du point de vue de la c'est très difficile parce que il faudrait en effet trouver des équivalents alors on tourne autour du pot, vous voyez, on invente des dialogues avec Spengler, on raconte des histoires savantes, mais en réalité ceci étant, ce malaise, Grégoire le dit aussi, au fond, je n'écris pas un livre sur les nymphéas, j'écris sur autre chose. Donc, on écrit toujours sur autre chose. On cache toujours quelque chose qui est indicible. Même le romancier, je ne sais pas s'il a tout dit, en fait. Moi, j'ai l'impression, en fermant le livre, que ça pourrait continuer, disons. Il nous met sur la piste, mais... On peut pas dire que l'enquête est close.
Non, et la piste...
La réalité n'est jamais close. Le livre peut se finir, mais la réalité, l'investigation, le principe d'élucidation, c'est infini.
Puis vous avez l'un et l'autre, l'art de la digression. Il y en a une qui vous a beaucoup plu, Grégoire Bouillet, chez Laurence Bertrand d'Orléac, dans son livre Contre déclin. C'est quand elle cite la correspondance de Fernand Léger.
Ah, ça, c'est incroyable. J'aimerais que vous en parliez, d'ailleurs, parce que... On est en 1915. J'avais jamais pensé le cubisme en liaison avec les cordes démembrées, démantibulées, saccagées de la guerre. Et ce qui m'a complètement interloqué, c'est que le cubisme, c'est quand même 1907, 1910. Et donc, c'est comme si le cubisme avait pressenti ce que la guerre allait faire au corps et ce que l'histoire allait faire au corps. Voilà. Et ça m'a complètement...
Voilà ce qu'il écrit. « Il n'y a pas plus cubiste qu'une guerre comme celle-là qui te divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux et qui l'envoie aux quatre coins cardinaux. »
Oui, alors évidemment, on croit à une prémonition de l'histoire. En fait, il voit le cubisme à l'œuvre. Voilà. Il voit la guerre comme la réalisation la plus... parfaite du cubisme. D'ailleurs, les joueurs de cartes, etc., sont des monuments de cela. Et par ailleurs, c'est évidemment l'expérience de la guerre va le bouleverser comme tous les soldats, sauf que lui va donner une forme à cela. Mais d'une certaine manière, il l'a déjà donné. Un peu comme Monet, dans Impression Soleil Levant, dès le début des années 70, en fait, 1870, invente un paysage trouble. On fait de sa cataracte le nœud de son abstraction, alors qu'en fait, il est abstrait d'entrée de jeu. Il est à la fois caricaturiste, c'est-à-dire très précis et complètement abstrait.
Mmh. Grégoire Bouillet.
Oui, alors moi, il y avait une idée qui m'a traversée, mais là, je viens de l'oublier.
Alors sur l'abstraction d'ailleurs, parce que parlons aussi de la manière dont on lit, dont on voit Claude Monet, on le voit aussi avec des yeux américains. D'une certaine manière, c'est l'art américain qui a réinventé Claude Monet et les nymphéas deux fois. D'abord par l'abstraction et ensuite par la production, parce que c'est une production en série quand même. Et vous le dites, il dit, allez, je le dis une fois pour toutes, Monet is Monet, comme ça c'est fait.
Oui, comme ça c'est voilà. fait.
Mais il y a de ça aussi.
Non, mais voilà, mon idée est revenue. En fait, vous montrez très bien que la guerre de 14, ça n'a pas juste été la boucherie que l'on sait, c'est que ça a détruit la foi en l'humanité. Ça a détruit un rapport à l'humanité. Et moi, j'avais pas perçu les conséquences de ça. Et je m'explique mieux aussi l'attitude de Monet. Alors, c'est très drôle parce que pour nous tous, Monet, enfin pour moi en tous les cas, Monet c'était un peintre du 19e, c'est un patriarche de la peinture française, c'est une sorte de sommité. Mais en fait, quand on regarde, il a posé les bases de l'abstraction et après la mort de Camille, enfin, il renonce au chef-d'œuvre pour faire la série et en fait, il a tout détruit. Il y a quelque chose de complètement destructeur. Voilà, comme tous les gens malheureux, quand ils ont du génie, bah, ça crée des chefs-d'œuvre. Il y a quelque chose comme ça chez lui.
Et vous le dites, vous l'écrivez, Grégoire Bouillet, avec ses nymphéas, Monet a renversé le monde. Il a mis la peinture sans dessus dessous, upside down, comme disait Diana Ross. Diana Ross et Monet, vous êtes sûr, Penny? Mais oui, Bimor.
Turn me inside out and round.
Vous êtes bien sûr France Culture, allons-y voir une plongée en eau trouble, le syndrome de l'orangerie, Grégoire Bouillet, contre déclin, Monet et Spengler dans les jardins de l'histoire, Laurence Bertrand d'Orléac. Ce sont ces deux livres qui dialoguent, et évidemment, son autrice et son auteur. On parlait de la redécouverte par l'art américain de ce monde sans dessus-dessous que peint Monet dans les Nymphéas. C'est un monde qui devient assez rapidement incompréhensible après-guerre, Laurence Bertrand d'Orléac.
Alors, entre 1914 et 1945, voire 50, Monet est totalement incompréhensible parce que il est, par son monde, à l'opposé de ce qu'on attend, c'est-à-dire le surhomme, en fait. C'est Arnaud Brecker, en gros. C'est Maillol et Arnaud Brecker, voilà. C'est le couple diabolique, disons, c'est l'esthétique, vraiment, c'est-à-dire très... à la fois, évidemment, pour la peinture, forcément figurative, et surtout très arrêté, c'est-à-dire pas cette espèce d'infini où il n'y a pas de centre, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et c'est ce qu'on va adorer, en revanche, après la libération, c'est-à-dire tout simplement après la libération de l'Europe, voire du monde, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, ça a des incidences sur les Américains, et pour cause, ils ont suivi l'aventure. Eux vont tout de suite voir ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire l'extrême liberté d'action, de peindre, et petit à petit, ils vont en faire vraiment le père de leur abstraction, qu'on a appelé lyrique, gestuelle, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire quelque chose que personne n'attendait, évidemment, en Europe.
Grégoire Bouillet.
Oui, c'est tout à fait étonnant que Monet nous soit revenu par les Américains. Mais à tel point que, je crois que c'est en 42-43, il y a un obus qui tombe sur l'orangerie, qui ne fait aucun blessé, c'est dire à quel point l'affluence était grande à ce moment-là. Et il y a même encore un éclat, on voit, il y a un des panneaux qui a été réparé et tout ça. Et preuve aussi que, alors que énormément de toiles du Louvre ont été mises à l'abri et cachées, etc., à l'orangerie, tout le monde s'en fichait. Donc entre malgré les efforts de Clémenceau, qui s'est vraiment battu pour pérenniser l'œuvre de Monet, etc. Toutes les années 30, en fait, Monet disparaît totalement du circuit.
Il disparaît, il est attaqué, y compris par les artistes eux-mêmes. Enfin, il y a 46 visiteurs, dit Clémenceau, en 1927. Donc, on ouvre l'orangerie.
1927, c'est l'année où l'orangerie est ouverte.
Exactement, au public.
Au public.
Et, un an après la mort de Monet.
Et Clémenceau dit 46 visiteurs, donc 44 jeunes gens qui vont là-bas pour flirter. Voilà. Et il décide, alors qu'il a près de 90 ans, d'écrire un livre qui est un hommage au Nymphéas, et qui est un livre très beau, et pour essayer de faire comprendre ce qu'est son vieux Maboul. Enfin,
comme quoi, j'ai pas tout à fait tort de penser que les Nymphéas ont quelque chose à voir avec le cinéma, puisque les jeunes gens venaient de flirter à l'orangerie.
Alors, puisqu'on parle de cinéma, vous savez que le philosophe Mathieu Pot-Bonneville, directeur du département culture et création du Centre Pompidou, m'envoie parfois des cartes postale, mais là, elle vous est aussi adressée à vous, Grégoire Bouillet. Écoutez.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, la règle est la suivante. Explique la reine blanche à Alice dans De l'autre côté du miroir. Confiture hier ou confiture demain, mais jamais confiture aujourd'hui. On fait aussi parfois, vous le savez Patrick, de la confiture de rose. Et justement, cette règle posée par la reine blanche s'appliquerait assez bien aux fleurs que l'on voit déployer leurs corolles et leurs pétales dans l'installation intitulée « Power Plants », présentée pour la première fois aux Serpentine Galleries de Londres en 2019, au beau milieu des jardins de Kensington, par l'artiste visuelle allemande Hito Steierl. Power Plants, c'est une œuvre digitale. La digitale est aussi une fleur, mais il ne faut pas en faire de confiture. Elle consiste dans une série d'écrans LED entre lesquels le spectateur est invité à circuler, comme au beau milieu d'un jardin, cependant que s'épanouissent autour de lui des fleurs étrangement tourmentées, engendrées par des réseaux neuronaux qui mettent en œuvre des algorithmes de prédiction. Ces fleurs, nous explique l'artiste, sont situées 0,02 secondes dans l'avenir. Il s'agit en réalité de rendre perceptible une technique dont le principe est éprouvé. Depuis longtemps, la compression, la décompression des images ne consiste pas à retenir l'intégralité des informations comprises, par exemple dans un film, ce qui tient trop de place. Cela consiste à générer ce que l'on va voir par induction à partir de ce que l'on a vu, à imaginer l'image d'après, d'après les autres images, à concocter la confiture demain avec la confiture hier. Poussant au bout cette logique, Ito Steyerl l'applique à la croissance des fleurs. Ce sont donc des fleurs spéculatives que l'on voit s'épanouir sur les écrans à coups d'hypothèses visuelles réitérées. S'épanouir, peut-être s'évanouir, car les failles dans les prédictions réalisées à chaque instant par l'algorithme, les erreurs de rendu, ce que l'on nomme les glitches, teintent ces végétaux qui se tordent et s'évasent d'un scintillement maladif, donnent à leur floraison quelque chose d'avorté, de manqué, de morbide, quelque chose d'une décomposition, d'une déconfiture. Faut-il alors préférer les fleurs d'hier ? Mais Grégoire Bouillet révèle, ces pages 176, que Monet lui-même, en cultivant ses nymphéas avant de les peindre, je cite, fabriqua de toutes pièces le modèle qui, sur la toile, devint ensuite sa source d'inspiration. Les nymphéas d'hier préparaient leur lendemain. Les fleurs de demain rêvent celles d'hier. Nécessairement, il doit bien arriver que ce soit confiture aujourd'hui, s'obstine Alice. C'est ce qui arrive à force de vivre à l'envers, dit la reine gentiment. Cela donne un peu le vertige au début.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Le vertige, pas seulement au début d'ailleurs, Grégoire Bouillet. On comprend à vous lire que les visiteurs font fausse route quand ils vont à Giverny chercher le secret des nymphéas, parce que ce que peint Monet, c'est pas la chose, c'est la distance entre la chose et nous.
Oui, tout à fait. En fait, je pensais les nymphéas sont un peu le terrier du lapin blanc d'Alice.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une surface et tout ça. Et alors, moi j'ai découvert, je me suis posé une question un peu bête, hein, c'est quoi un nymphéa ? Pourquoi un nymphéa ? Pourquoi Monet les a peints 400 fois pendant 30 ans ? Pourquoi des nymphéas et pas des coquelicots, des rhododendrons ? Et la première chose, c'est que c'est un abominable mystère au sens darwinien, hein, puisque c'est une plante qui, comme toutes ses congénères, viennent de l'eau et sont montées sur la terre ferme. Et elle, elle s'est pas plu sur la terre et elle est retournée dans l'eau. Enfin, donc il y a plein de choses comme ça. Et c'est un tue-l'amour. Et enfin, voilà, j'ai découvert tellement de choses sur. C'était quoi un nymphéa du temps de Monet ? Parce que pour nous, les nymphéas, c'est les nymphéas de Monet. C'est cette beauté, cette splendeur de l'orangerie. Mais du temps de Monet, pas du tout. Il y a des poèmes de Mallarmé pour dire que c'est un tue-l'amour, que c'est voilà, enfin que c'est un bonheur qui n'aura jamais lieu. Je crois que c'est la phrase exacte de Mallarmé. Voilà.
Et sur ce passage entre le passé et l'avenir, justement, dans le terrier du lapin d'Alice, on lit ceci dans votre livre, Grégoire Bouillet. Charles Péguy se demandait quel nénuphar Monet avait-il peint le mieux. Était-ce le dernier de la série, puisqu'il cumulait l'expérience de tous ceux qui l'avaient précédé ? Pour Péguy, il s'agissait au contraire du premier en date, parce que Monet en savait à ce moment-là le moins. Sauf qu'il n'y a pas de premier nymphéa. Au commencement, il y a Camille, sur son lit de mort. Deleuze, lui, disait que c'est le premier nymphéa de Monet qui répète tous les autres, comme la prise de la Bastille en 1789 faite et répète à l'avance tous les 14 juillet à venir, entre parenthèses, vous aimez beaucoup les parenthèses, que chacun se débrouille avec ça. Bah, ce sont aussi les historiennes et les historiens de l'art qui doivent se débrouiller avec ça, le fait que l'art voit venir le temps. Laurence Bertrand d'Orléac.
C'est très très bien dit, et d'ailleurs Clio, ce texte donc, que cite Grégoire, c'est un texte magnifique
de Charles Péguy.
De Charles Péguy, où juste avant de mourir, donc en 1913, Péguy écrit ce texte pour montrer quoi ? Pour montrer qu'il n'y a pas de progrès en art, et que en effet, le dernier nymphéa de Monet ne sera pas forcément le meilleur. Et pourquoi Monet s'obstine à ne pas donner ces fameuses décorations qu'il avait promises à Clémenceau en 1918 ? C'est tout simplement simplement qu'il a besoin d'avoir son diapason près de lui en permanence, parce qu'il n'est pas sûr, en fait, de ce qu'il va faire. Il n'y a pas de progrès en art. Ce que je voulais montrer, au fond, c'est qu'il n'y a pas de déclin, mais il n'y a pas de progrès non plus.
Je suis absolument d'accord et convaincu. Enfin, voilà, la démonstration a été pour moi limpide. Je rajouterais juste, dans le refus, vous parlez de la caisse d'épargne, le refus de la caisse d'épargne, et j'ai trouvé ça sublime. Et moi, je rajouterais juste, s'il veut pas se défaire de ces grands panneaux, c'est parce que on ne peut pas se défaire de quelqu'un qui vous a quitté. Et s'il a effectivement mis Camille et tous ses morts dans les nymphéas, il peut pas s'en défaire comme ça. Il peut pas voilà, ça peut pas être exposé aussi facilement.
Alors vous êtes d'accord, Laurence Bertrand d'Orléac et Grégoire Bouillet, mais écoutez Louis Kahn sur France Inter en 1994 pour juger au fond de la distance. Voilà ce qu'il dit des nymphéas. Et là, vous allez être, je crois, totalement en désaccord. Et également Pierre Saint-Garvelou qui va nous rejoindre. Écoutez.
L'ombre et la transparence des fonds. Les palpitations colorées, le crépuscule, les formes et les tons.
Les nymphéas de Monet, c'est dans l'histoire de l'impressionnisme et dans la biographie de Claude Monet, une tentative réussie pour faire émerger le plaisir de la peinture. Il y a un plaisir évident, un acte de séduction évident, et automatiquement, entre le spectateur et la peinture, s'établit une relation duelle. C'est-à-dire que cette relation duelle sous-entend le mot de contemplation. Et certainement que Claude Monet avait l'idée, et en tout cas la lucidité, de vouloir placer ses nymphéas là, au cœur de Paris, à l'Orangerie. Et l'influence de Claude Monet chemine dans mon travail depuis assez longtemps. C'est-à-dire qu'elle est très visible à travers le plaisir de la couleur et le plaisir de peindre. Tout ce qui relève de la forme française, c'est une peinture qui est évidente à voir, qui relève de du mot contemplation, et qui est claire, évidente, comme ça, qui plaît. Monet relève de la forme française. Matisse relève de la forme française.
Le crépuscule, les formes, les tons. La symphonie silencieuse. L'ombre et la transparence des fonds.
Pierre Saint-Garvelou, bonjour.
Bonjour.
Alors, les auditrices et les auditeurs vous connaissent un petit peu. Lorsque vous vous approchez du micro, ils savent que lorsque vous passez la forme française trépasse, vous voulez tout mondialiser. Hein, c'est plus fort que vous. Et en particulier, contrairement à Grégoire Bouillet, vous voulez dézoomer. Lui, zoom à mort. Lui, vous voulez dézoomer les nymphéas de Monet.
Oui, je vous propose de dézoomer en resituant Monet au sein de l'impressionnisme, une mouvance picturale considérée depuis plus d'un siècle comme l'expression, la quintessence même du génie artistique français, la forme française dont parle Louis Kahn à l'instant. Il faut dire que l'histoire de l'art, comme l'histoire en général, a longtemps privilégié un cadre intellectuel spécifique, celui du nationalisme méthodologique. L'histoire des grands mouvements picturaux étant pensée et relatée à travers le prisme quasi exclusif des États-nations. Ainsi, avec l'impressionnisme, la France serait devenue, à la fin du XIXe siècle, le principal foyer de la création artistique, à la suite des Pays-Bas, de l'Italie et de la Grèce, un foyer artistique qui aurait ensuite rayonné dans le monde entier. Alors, à contrario de ce schéma diffusionniste, décrivant systématiquement l'influence univoque d'un centre sur des périphéries, de nombreux travaux, notamment des chercheurs anglophones, tendent aujourd'hui à provincialiser l'impressionnisme.
Ça veut dire quoi, en fait?
Il s'agit pour eux de décentrer le regard, c'est-à-dire de prendre en considération les interactions artistiques à l'échelle mondiale. En élargissant la focale, on s'aperçoit ainsi que l'impressionnisme s'origine en fait tout autant à Londres qu'à Paris et en Normandie. En effet, c'est dans la capitale anglaise que Claude Monet, Alfred Sisley et de nombreux artistes trouvent refuge pour fuir la guerre franco-prussienne en 1870. Le marché de l'art y semblait plus porteur, mais ils ne parviendront pas à séduire les Britanniques. L'Académie royale refuse tous leurs tableaux. Monet y rencontre toutefois le marchand d'art Paul Durand-Ruel, Camille Pissarro. Camille Pissarro qui écrit quelques décennies plus tard « Nous descendons tous de l'anglais ». Ce fut le premier, peut-être, qui sut faire flamboyer les couleurs dans leur éclat naturel. C'est en ces termes que Pissarro caractérise l'influence de William Turner sur les paysagistes français de la fin du XIXe siècle. Et dans ces musées londoniens, les futurs impressionnistes s'enthousiasment aussi pour Thomas Gainsborough ou John Constable, l'un des premiers peintres de plein air. En effet, c'est au bord de la Tamise que Monet et ses amis généralisent ce qu'ils dénomment la peinture sur le motif, en dehors de l'atelier, dans la lumière du moment, en prenant pour sujet l'atmosphère de Londres et son célèbre fog, cet épais brouillard exacerbé par la pollution.
Donc si on vous comprend bien, Pierre Saint-Garvalou, et on vous comprend avec effroi, l'impressionnisme serait d'origine anglaise.
Bien sûr que non, Patrick Boucheron. Il ne faut pas céder à la tentation du démon des origines. L'impressionnisme est le produit...
J'étais à deux doigts de le faire, en fait.
...de multiples influences, sources d'inspiration et transferts, dont certains ont été oblitérés. Songez à celui que l'on a surnommé le père des impressionnistes, Camille Pissarro. Quel peintre plus français que celui qui a peint toute sa vie les paysages ruraux de l'Hexagone, notamment ceux du village d'Éragny, au nord-ouest de Paris? Pourtant, cet artiste, issu d'une famille de juifs portugais, est né à Saint-Thomas, dans les Antilles danoises, dont il a conservé d'ailleurs la nationalité toute sa vie. De ses origines caribéennes, on ne décèle aucune trace dans son œuvre, ou presque. On a retrouvé récemment quelques œuvres des années 1850, notamment des dessins au fusain exécutés au Venezuela, en pleine forêt tropicale, et à Caracas, où il ouvre une école de peinture. Selon l'historienne de l'art Mia Laufer, le jeune Pissarro y conjugue déjà les principes qui inspirent ensuite l'impressionnisme, l'usage nerveux du pinceau, une fascination pour les effets fugaces de la lumière, l'abandon de la pédagogie académique de l'école des beaux-arts au profit d'une pratique collaborative et d'une sociabilité artistique en plein air, fortement structurée par des liens d'amitié.
Donc les Caraïbes, c'est ça? Ça viendrait des Caraïbes?
Non, non. Affirmer cela, Patrick Boucheron, reviendrait à simplement inverser et
j'ai
donc
un beau rôle, hein, dans cette
à reconduire la logique diffusionniste centre-périphérie. Au Venezuela, Pissarro apprend la peinture à l'huile auprès de son mentor, l'artiste danois Fritz Melby, lui-même formé par le maître néoclassique Christopher Wilhelm Eckersberg, qui lui transmettent tous deux le goût de la douceur des paysages romantiques, caractéristiques de l'école de Copenhague. Ainsi, le supposé point de départ nous intéresse désormais moins que la circulation et la transformation des techniques, des motifs et des styles. Outre l'école de Copenhague, de nombreuses autres traditions picturales européennes ont influencé l'impressionnisme, qui prétendait pourtant rompre radicalement avec l'académisme. Ainsi, l'historien de l'art Brice Amey souligne l'influence décisive des peintres classiques du siècle d'or espagnol et néerlandais sur certains impressionnistes français. Auguste Renoir lui-même confirme qu'on ne se dit pas « je serai peintre devant un beau site », mais devant un tableau. Ainsi, Auguste Renoir, comme Edgar Degas, délaisse le paysage au profit des êtres humains, se définissant comme des artistes d'atelier, héritiers des peintres classiques, respectivement Rubens et les maîtres de la Renaissance italienne. De fait, la majorité des futurs impressionnistes se forment dans des ateliers, possèdent une carte de copiste au Louvre, admirent le Titien, les scènes de Jean de Vermeer, la facture enlevée de Rembrandt et le réalisme de Velázquez, au même titre que les fantaisies de Fragonard et les natures mortes de Chardin.
Donc si je comprends votre projet, Pierre Saint-Garvalou, dans cette émission, c'est que vous voulez parler de toutes les racines mondiales de l'impressionnisme, de toutes sauf de celle qui est la mieux documenté quand même, le japonisme.
Oui, vous avez raison, c'est une histoire qui est bien connue.
À la fin, j'ai raison, quand même.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'art occidental a été révolutionné par l'esthétique nippone. Cette histoire de l'extraordinaire curiosité des artistes européens à l'égard du Japon a été magnifiée par le grand récit occidental de l'histoire de l'art, dans lequel les innovations étrangères sont systématiquement importées par les Européens eux-mêmes. Or, on a oublié le rôle décisif d'un Japonais, Hayashi Tadamasa, qui a importé à Paris plus de 150 000 estampes et près de 1000 peintures, vendues à partir de 1883 dans son fameux magasin de japonaiserie qui fournit tous les collectionneurs de la capitale. Parmi eux, les frères Van Gogh, Camille Pissarro, Edmond de Goncourt, Claude Monet, bien sûr, dont il collectionne les tableaux, et Edgar Degas, qui n'hésite pas à échanger ses toiles contre des estampes. Hayashi exerce une influence décisive sur ses contemporains en transmettant une vision très idéalisée d'un Japon pays des samouraïs et des geishas. En l'espèce, L'orientalisme n'est pas une invention ex nihilo, mais plutôt une coproduction des artistes européens et d'intermédiaires asiatiques. Hayashi Tanamasa introduit également de jeunes peintres japonais dans les cercles artistiques français, permettant l'essor d'un nouveau style nippon occidentalisé, illustré notamment par le célèbre Kuroda Seiki. Parallèlement, Hayashi contribue à faire connaître les impressionnistes au Japon en exposant leurs œuvres à Tokyo dès 1893. Ainsi, à partir de la fin du 19e siècle, aux quatre coins du monde, des artistes revendiquent l'impressionnisme en Écosse, en Australie, en Afrique du Sud, au Mexique, au Brésil ou encore aux États-Unis. Ce succès transnational s'explique sans doute non par l'existence d'un quelconque canon esthétique ou d'un groupe cohérent de peintres, mais par la grande plasticité de ce mouvement artistique qui constitue en fait une extraordinaire boîte à outils de pratiques, de techniques, de motifs que chaque artiste pouvait à sa manière s'approprier et enrichir.
Grégoire Bouillet, que pensez-vous de ce qu'on vient
non,
de
dire bah, chacun le
ou Bimor, de... peut-être,
ouais,
l'un ou l'autre.
Ouais, non, là, ce sera plutôt Grégoire Bouillet, Bimor, il est à la maison. C'est plutôt le... Enfin, moi, je suis pas trop sur le démon de l'interprétation, mais de l'identité, plutôt. Mais moi, j'ai adoré retrouver dans le livre de Laurence Bertrand d'Orléac le lien avec Proust. Notamment ce passage de la recherche où il parle de Elstir, qui serait Whistler, donc c'est pour renouer avec l'Angleterre. Et il dit quelque chose d'absolument admirable, où il dit peindre ni ce qu'on voit, puisqu'on ne voit rien, ni ce qu'on ne voit pas, puisqu'il faut peindre ce qu'on voit, mais peindre qu'on ne voit pas. Peindre qu'on ne voit pas. Et je trouve cette formule absolument merveilleuse.
Laurence Bertrand d'Orléac.
Oui, c'est une leçon d'histoire de l'art, Pierre, que vous nous faites, très classique d'une certaine manière, et je vous en remercie. En réalité, Monet échappe, il voyage très peu, et en fait, il est très, comment dire, il a son diapason, ce sont ses estampes japonaises, en effet, mais au fond, je crois qu'il est surtout un grand rêveur de monde au pluriel. Je suis pas sûre, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a aucun succès aussi, c'est parce que c'est pas du tout un peintre nationaliste, et dans ce long traîne de 14 à 45, où on adore le nationalisme, et il ne correspond pas finalement à ce qu'on attend. Donc, alors c'est tout à fait juste ce que vous dites sur le voyage en Angleterre avec Whistler, etc. Mais en fait, ça résout pas mon problème de savoir ce que je vois. Si je puis me permettre.
Pierre Saint-Garavel, vous pouvez vous défendre.
Non, pas du tout. Non, je n'ai pas été attaqué. Il y a tout de même une énigme pendant cette période des Nymphéas. C'est le voyage, un des rares voyages de Monet qu'il effectue à Venise.
Et en Norvège.
Et en Norvège.
Où il croit voir le Japon. Il n'a jamais été au Japon. Il fantasme complètement le Japon.
Et en Hollande, où il trouve les estampes japonaises.
Alice, dans sa correspondance, dit bien qu'elle en a marre des Nymphéas et que ce voyage à Venise est une distraction salutaire. Il va débuter 38 tableaux sur place. Enfin, ça va être un séjour extrêmement fécond.
Peut-être parce que dans l'équation, on oublie que Monet pince un monde intérieur. Il peint Camille aussi, et je comprends qu'Alice, qu'elle en ait eu marre des Nymphéas, puisque les Nymphéas viennent précisément de la japonaise, qui est une représentation de Camille, avec les éventails qui sont les premières esquisses de Nymphéas. On oublie quand même la dimension de l'homme et du monde intérieur que Monet a peint, et qui ne peut pas être transmis. L'impressionnisme peut être transmis, il peut voyager, etc. Mais le monde intérieur de Monet appartient aux toiles de Monet, ça c'est dit.
Vous en avez marre des Nymphéas, Laurence Bertrand d'Orléac?
Non,
jamais.
C'est une œuvre, à chaque fois j'y reviens et je vois d'autres choses. Alors maintenant je vais voir d'autres morts. Depuis que j'ai lu le livre de Grégoire, c'est immense.
Et c'est comme mon syndrome de l'orangerie, il est à l'envers du syndrome de Florence de Stendhal. Il a son syndrome, son évanouissement, enfin c'est cette manifestation psychosomatique Stendhal devant la chapelle de Saint-Crocé, qui est quand même une immense œuvre de mort.
Eh ben écoutez, personne n'en a marre, mais c'est fini. Je suis désolé. Voilà, c'est comme ça. C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Laurence Bertrand d'Orléac, Grégoire Bouillet et Pierre Saint-Garavelou. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son d'Ali Yaha et à la réalisation Laurence Millet. Merci à toutes et à tous.